France Musique. Musicopolis. Le malade imaginaire de Charpentier et Molière, une comédie remplie de danse, musique et ustensiles. Cette formulation vous paraît peut-être un peu familière, mais elle est authentique. Elle vient du registre de Lagrange, le second de Molière, qui a pris soin pendant plus de 20 ans de noter les dates et les recettes de chaque représentation de la compagnie. Voici exactement ce qu'il dit. Les frais du malade imaginaire ont été grands à cause du prologue et des intermèdes remplis de danse, musique et ustensiles, et se sont montés à 2400 livres. Les frais journaliers ont été grands à cause de 12 violons à 3 livres, 12 danseurs à 5 livres dissous, 3 symphonistes à 3 livres, 7 musiciens et musiciennes, dont il y en a 2 à 11 livres, les autres à 5 livres dissous. Récompense à M. Beauchamp pour les ballets, à M. Charpentier pour la musique. Une part à M. Baraillon pour les habits. Ainsi, les 10 frais se sont montés par jour à 250 livres. Le malade imaginaire a bien sûr une place tout à fait particulière dans le catalogue de Molière. C'est sa dernière pièce. Et c'est à la 4e représentation, le 17 février 1673, qu'il s'est senti mal. Raccompagné chez lui, une fois le rideau tombé, il y mourait peu de temps après. La pièce a aussi une place importante dans la biographie de Marc-Antoine Charpentier, puisque c'est la première fois, et du coup la dernière, qu'il collaborait avec Molière sur la création d'une grande comédie-ballet. Avant de vous décrire la genèse du malade imaginaire, je dois remonter un peu en arrière pour vous donner une idée du contexte assez délicat, dans lequel a commencé la collaboration entre Molière et Charpentier. Cette musique est celle de Lully, écrite en 1670 pour la fameuse cérémonie turque qui clôt en beauté le bourgeois gentilhomme de Molière. En effet, Molière et Lully ont travaillé ensemble depuis quelques années et ils ont créé à eux deux le genre de la comédie-ballet, sur ordre et pour le plus grand plaisir du roi Louis XIV. Mais cette entente cordiale s'est rompue au début de l'année 1672. Lully, en effet, en mars 72, a obtenu du roi le privilège de faire représenter des opéras, et pour ne pas risquer la concurrence des pièces mêlées de musique comme les faisait Molière, il a obtenu également que personne d'autre que lui ne puisse faire chanter une pièce entière en musique. Il a même réussi à avoir une clause qui interdit à quiconque de faire une représentation accompagnée de plus de 2 airs et de 2 instruments sans la permission par écrit du sieur de Lully. Là, c'en est trop. Molière va voir le roi très embêté qui se rend bien compte que ça n'est pas juste et qui rétablit le droit d'avoir de la musique au théâtre. Mais les manœuvres de Lully ont évidemment compromis son amitié avec Molière, qui par conséquent a dû se trouver un autre musicien.
Bonjour, dirons-nous? Je m'en rapporte à vous.
Je m'en rapporte à vous.
Que vous ensemble, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Qu'importe, chantons tous ensemble, mal ou bien. Qu'importe, chantons tous ensemble, mal ou bien.
À écouter la musique composée par Charpentier pour les représentations du mariage forcé en juillet 1672 pour remplacer celle de Lully, que Molière ne pouvait plus utiliser, on comprend que ledit Lully se soit mis un peu en rage. Il pensait porter un coup terrible à Molière en lui refusant sa collaboration. Or, celui-ci s'en est tout à fait bien remis et il a même trouvé en Charpentier un compositeur qui lui convient parfaitement. C'est en juillet 1672 que les Parisiens ont pu entendre pour la première fois la musique de Charpentier lors d'une représentation d'une pièce de Molière. On ne sait pas trop quand ni dans quelles circonstances les deux se sont rencontrés. À cette époque, Marc-Antoine Charpentier, 29 ans, revenu depuis 2 ans d'un long séjour d'études en Italie, vit chez la princesse de Guise, pour qui il est un genre de compositeur en résidence, comme on dirait maintenant. La princesse dispose d'un ensemble musical à demeure, chanteur et instrumentiste, pour qui Charpentier, également chanteur, compose diverses pièces. Le milieu artistique et musical parisien est alors déjà un petit milieu. Et il est tout à fait plausible que la princesse de Guise ait présenté son compositeur à Molière. Molière a peut-être senti que le jeune musicien avait un potentiel dramatique intéressant. Il l'a engagé. Après les représentations de la comtesse d'Escarbagnas et du mariage forcé à l'été 1672, avec nouvelle musique de Charpentier, Lully a pensé qu'il fallait frapper plus fort pour ne pas risquer la concurrence de Molière et de son nouveau musicien. Quelques jours après la dernière représentation des pièces de Molière en août 72, paraît une nouvelle ordonnance du roi qui limite drastiquement le nombre de musiciens au théâtre. 6 chanteurs, 12 violons et instruments maximum. Un mois plus tard, dernier coup de Lully, le roi lui accorde le droit de faire imprimer ses musiques et de disposer aussi des textes sur lesquels les musiques sont écrites. Autrement dit, Molière n'a plus le libre accès à ses propres textes. Que faire ? Une seule solution, écrire une nouvelle pièce pour laquelle Lully n'a jamais écrit de musique.
Quelle est grande,
Le 22 novembre 1672, Lagrange écrit dans le registre de la troupe de Molière « On a commencé la préparation du malade imaginaire ». Molière a vu les choses en grand. Non seulement il écrit une comédie en 3 actes avec ses personnages, mais il prévoit également un prologue et 3 intermèdes, tous munis de musique et avec des personnages supplémentaires. Le prologue est destiné à honorer le roi, puisque généralement c'est devant le roi que les pièces de Molière sont jouées pour la première fois. Le prologue est une églogue en musique et danse, avec personnages de bergers et de bergères et charmante musique pastorale. Tous se réunissent à la fin pour chanter en chœur « Joignons tous dans ces bois nos flûtes et nos voix, ce jour nous y convie, et faisons aux échos redire 1000 fois « Louis est le plus grand des rois, heureux, heureux, qui peut lui consacrer sa vie ». L'invitation attendue par Molière et sa troupe de venir présenter la nouvelle pièce devant le roi n'est jamais arrivée. Le prologue a donc été écrit en vain. On n'est même pas sûr qu'il ait été représenté. Le seul indice qui le laisserait penser est une facture pour une liste de fournitures, d'ustensiles, qui correspondent aux bergers et aux bergères. Le premier intermède, en revanche, a certainement été donné. Dans la pièce, il est annoncé un peu inopinément, par la servante Toinette, qui répond à la jeune première, Angélique.
Tâche, je t'en conjure, de faire donner avis à Cléante du mariage qu'on a conclu.
Je n'ai personne à employer à cet office que le vieux usurier Polichinelle, mon amant. Et il m'en coûtera pour cela quelques paroles de douceur que je veux bien dépenser pour vous. Pour aujourd'hui, il est trop tard. Mais demain, de grand matin, je l'enverrai guérir. Et il sera ravi...
Toinette de...
Voilà qu'on m'appelle. Bonsoir, reposez-vous sur moi.
La scène de Polichinelle, qui arrive à la fin du premier acte du Malade imaginaire, est l'occasion pour Charpentier et Molière de mêler la musique et les paroles d'une manière tout à fait burlesque.
Ô nuit, ô chère nuit, porte mes plaintes amoureuses jusque dans le lit de mon inflexible. Quelle impertinente harmonie vient interrompre ici ma voix ? Père, taisez-vous, violon ! Laissez-moi me plaindre à mon aise des cruautés de mon inexorable ! Taisez-vous, vous dis-je ! C'est moi qui veux chanter ! Pédo !
Dans le premier intermède du Malade imaginaire, alors qu'il voudrait chanter sous le balcon de Toinette, le pauvre Polichinelle, après sa rencontre avec les violons, est pris à partie par les archers, qui en chœur lui demandent « Qui va là? Qui va là ?» À quoi Polichinelle répond « Qui diable est-ce là? Est-ce que c'est la mode de parler en musique ?» On a parfois interprété cette question comme une moquerie à l'encontre de Lully et de la nouvelle mode de l'opéra où, justement, on parle en musique.
Qui va là? Qui va là?
Qui diable est-ce là? Est-ce que c'est la mode de parler en musique?
Qui va là? Qui va là? Qui va là?
Moi! Moi! Moi!
Qui va là? Qui va là?
Moi! Moi! Vous dis-je!
Écoute-moi! Écoute-moi!
Moi! 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 Moi!
Qui t'entend? Qui t'entend?
Mon nom est va te faire
pendre!
Je
suis ta banane, ici c'est ici.
Qui va là? Qui sont les croquants que j'entends? Voilà, mais la tête, les gens! Parle à la mort! Papa, parle sort! J'en jetterai par terre! Donnez-moi mon mousqueton.
Marc-Antoine Charpentier est rentré d'Italie depuis un peu plus de 2 ans lorsqu'il compose les intermèdes du Malade imaginaire. Nul doute qu'il a encore en tête les situations burlesques de la Commedia dell'arte. Mais le nouveau mélange de parler, de jouer et de chanter est bien à lui. Et il est certainement dû à une collaboration étroite avec Molière pendant les quelques mois de préparation de la pièce entre novembre 1672 et février 1673. C'est en effet le 10 février 1673 que la pièce paraît pour la première fois sur le théâtre du Palais Royal. La première du Malade imaginaire se déroule à merveille. Les recettes sont élevées, quasiment 2 fois la recette moyenne de la troupe. Les représentations suivantes sont bonnes aussi. Mais à la 4e, le 17 février, Molière est très malade. La comédie est en fait, raconte Lagrange, il se retira promptement chez lui. Et à peine eut-il le temps de se mettre au lit que la toux continuelle dont il était tourmenté redoubla sa violence. Les efforts qu'il fit furent si grands qu'une veine se rompit dans ses poumons. Aussitôt qu'il se sentit en cet état, il tourna toutes ses pensées du côté du ciel. Un moment après, il perdit la parole et fut suffoqué en 30 minutes par l'abondance du sang qu'il perdit par la bouche. Molière meurt le soir même, après avoir tenu le rôle d'un malade imaginaire et moqué les médecins.
Savantissimi doctores, medicinae professores, qui hic assemblati estis, et vos altri messiores, sententiarum facultatis, fidelis executores, chirurgiani et apothicari, atque tot accompagne aussi. Salus, honor et argentum, atque bonum appetitum.
Dans le 3e et dernier intermède du Malade imaginaire, Molière met en scène une cérémonie burlesque, je cite, d'un homme qu'on fait médecin en récit, chant et danse. Toute l'assemblée, composée de 8 porte-seringues, 6 apothicaires, 22 docteurs et celui qui se fait recevoir médecin, 8 chirurgiens dansants et 2 chantants, entre et prend ses places selon les rangs.
Docte basilire quae remedia eticis, pulmonicis, atque asmaticis probas, a propos, passere.
L'idée de cette cérémonie est de faire passer un examen en latin macaronique, à un futur médecin. À chaque question sur le traitement d'une maladie, il devra répondre « Clisterium donare, postea segnare, ensuita purgare ». Ce qui va soulever l'enthousiasme de l'assistance qui s'exclamera « Bene, bene respondere, dignus, dignus est, entrare in nostro docto corpore ».
Clisterium donare, postea segnare, ensuita purgare.
Mais, si maladia opiniatria non vult garire, qui li facere?
Clisterium donare, postea segnare, ensuita purgare.
Moins de 3 mois après la mort de Molière, la troupe est chassée de la salle du Palais Royal que Lully veut reprendre pour ses opéras. Les comédiens s'installent dans l'hôtel Guénégaud, où ils demeureront désormais. Mais les avanies ne sont pas terminées. Lully réussit à obtenir du roi une nouvelle ordonnance qui limite encore davantage l'effectif musical sur les théâtres. Pour les représentations de l'année suivante, 1974, Charpentier doit donc s'adapter et transformer sa musique pour moins d'instrumentistes et de chanteurs. Il remet au propre une partition sur laquelle il écrit « Avec les défenses ». La texture sonore est évidemment très différente. En août 1674, pour la première fois, le roi assiste à une représentation du malade imaginaire à Versailles. La gravure qui rappelle cette soirée montre un chef d'orchestre, peut-être Charpentier, qui dirige des musiciens fort nombreux. Probablement pour cette circonstance exceptionnelle, le roi a-t-il autorisé un plus grand nombre de musiciens. 12 ans plus tard, en 1686, la troupe donnera la pièce encore une fois à Versailles. Et Charpentier écrira une troisième version de sa musique à cette occasion. Il note sur sa partition « Malade imaginaire » rajustée pour la troisième fois. Ce sera la dernière. La cérémonie burlesque à la fin du Malade imaginaire. Texte de Molière, musique de Marc-Antoine Charpentier. Lézard florissant, dirigé par William Christie. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis et sur l'appli Radio France. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Philippe Petit pour la réalisation, Cédric Chatelus pour le mixage et Élise Kravetz pour les recherches et le site. À réécouter sur francemusique.fr.